France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, on se demande pourquoi le mal nous fascine, pourquoi des personnages maléfiques comme Voldemort, la sorcière dans Blanche-Neige, J.R. dans Dallas, Magneto dans les X-Men, Guy Georges, Xavier Dupont de Ligonnès ou encore Geoffrey Dahmer, pourquoi tous ces méchants nous attirent? Qu'est-ce que ça raconte sur nous, sur la condition humaine ou sur la société? Mais au fond, qu'est-ce que le mal? C'est la question centrale de cette émission que nous essaierons de percer avec le professeur en psychologie sociale Laurent Beck-Chancland, le youtubeur Bolchet Geek et avec l'un de nos plus grands écrivains Philippe Génada. Une émission en partenariat avec le 1 des libraires. Et vous, quelles sont les figures du mal qui vous fascinent sans forcément les approuver? 01 45 24 7000, sans oublier l'appli Radio France. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rébéi.
Il n'y a plus de barrière à franchir. Tout ce que j'ai en commun avec l'incontrôlable et le démentiel, le vicieux et le diabolique, toutes les mutilations que j'ai infligées et ma totale indifférence, je les ai surpassées. Ma douleur est constante et aiguë. Je ne souhaite un monde meilleur à personne. En fait, je veux même que ma douleur soit infligée aux autres. Je veux que personne n'y échappe. Mais même après avoir admis cela, il n'y a pas de catharsis. Ma punition continue de m'échapper. Et je n'en sais pas davantage sur moi-même. Aucune découverte ne ressort de mes dires. Cette confession n'aura servi à rien.
Extrait du film American Psycho de Mary Aron, une figure du mal qui m'avait marqué quand j'étais étudiant, Patrick Bateman, un jeune riche américain tueur en série dans American Psycho de Bret Easton Ellis. Bonjour Philippe Génada.
Bonjour Ali Rébé.
Vous êtes écrivain, l'un de nos meilleurs, tout en haut de la pile, à mon humble avis, à titre personnel, vous êtes l'un des deux ou trois écrivains que j'ai préféré interviewer. Voilà, c'est dit, exercice d'admiration, sans flagornerie, je l'espère. Je ne suis pas le seul autour de cette table. Et vous nous faites le plaisir de venir ce matin, alors vous avez beaucoup de travail, vous travaillez d'arrache-pied en ce moment.
Je travaille d'arrache-pied, d'arrache-main, d'arrache-tête, d'arrache-tout, et surtout, normalement, je ne dois pas sortir de chez moi, je suis enfermé pendant un an, là. Je viens un peu pour vous, Ali, et beaucoup pour ma maman.
Qui écoute
et dont vous êtes l'idole.
Ah bon, la salue. On salue votre mère.
Ma petite mère,
Philippe,
je t'embrasse.
Génada. On vous doit notamment La Petite Femelle, la serpe couronnée du prix Fémina. Et vous avez récemment publié La Désinvolture est une bien belle chose chez Mialet Barreau. Et on vous retrouve dans un bel entretien dans le 1 des libraires intitulé Le Mal et nous. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Vous êtes le directeur des rédactions du 1 Hebdo. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce numéro du 1 des libraires consacré au Mal, qui se déplie en poster. Qu'est-ce qu'on retrouve en plus de l'interview de Philippe Génada?
Eh bien, outre ce long entretien avec Philippe Génada qui est passionnant, on va retrouver une nouvelle de Guy de Maupassant, qui lui-même avait beaucoup exploré le mal. On va avoir des enquêtes pour essayer de comprendre un petit peu les racines du mal. Et puis une seconde feuille sur le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, parce que Dorian Gray est une incarnation parfaite du mal, une incarnation qui était tout à fait pertinente à son époque, à la fin du 19e siècle, mais surtout encore plus aujourd'hui, elle nous parle aujourd'hui, c'est un personnage tout à fait formidable.
Avec un beau poster affiché dans sa chambre.
Exactement.
Nous on l'a affiché au bureau.
Comme dans tous les numéros du 1 des libraires, nous proposons des posters à afficher, et donc ici c'est Dorian Gray.
Bonjour Laurent Beck-Chancland.
Bonjour Ali.
Vous êtes professeur de psychologie sociale à l'université Grenoble-Alpes, et vous êtes membre de l'Institut universitaire de France, et vous êtes l'auteur de Psychologie du bien et du mal en poche chez Odile Jacob. Bonjour Benjamin Patineau.
Bonjour.
Alias Bolchet Geek sur votre chaîne YouTube très suivie. Vous êtes l'auteur du Syndrome Magneto, publié au Diable Vauvert. Je le rappelle, Magneto, c'est le super vilain, le super méchant dans l'univers Marvel, dans X-Men notamment. C'est quoi en quelques mots le Syndrome Magneto?
Le Syndrome Magneto, ça s'intéresse aux méchants de la pop culture, mais à des méchants très précis qui sont ceux pour lesquels on peut avoir une adhésion, où le public peut se rapprocher un petit peu d'eux pour des raisons idéologiques ou de ce qu'ils représentent. Et la question de se poser, du coup, est-ce qu'ils sont, pourquoi ils sont encore le méchant si c'est eux qui ont raison?
Alors, autour de la table, quelle est votre définition du mal? Dans le Robert, c'est ce qui cause de la douleur, de la peine, du malheur, ce qui est mauvais, pénible, le mal, ce qui est contraire à la loi morale, à la vertu, au bien, ce qui est l'objet de désapprobation ou de blâme. Laurent Beck-Shankland, quelle est votre définition du mal du point de vue de la psychologie sociale?
Alors évidemment, c'est une question qui s'adresse plutôt à des théologiens ou des philosophes ou des psychologues. Des psychologues, ce qui les fascine, c'est plutôt pourquoi nous avons besoin d'essentialiser, besoin de, je dirais, de concentrer le mal sur des personnages et de minimiser l'influence finalement des circonstances, des contextes, des variables cachées. Donc finalement, il y a également cette tendance à voir le mal dans les autres et pas tellement dans soi. Et puis aussi ce besoin de le manipuler dans des fictions, dans des romans, pour l'apprivoiser peut-être.
Vous, Philippe Génada, vous dites dans Le 1 des libraires, je ne suis sûrement pas la meilleure personne pour vous parler du mal, car je n'y crois pas vraiment. Merci d'être venu en tout cas.
Oui, j'y crois pas, je n'aime pas, ça m'intéresse pas, je ne sais pas ce que je fais là encore une fois. Non, et moi ce qui m'intéresse c'est le mal qu'on applique sur les gens, presque tous mes livres, en fait, sans vraiment que je m'en rende compte, mais je réalise avec le recul que c'est ce qui m'attire, sont des gens sur lesquels, auxquels on met un costume de maléfique, un costume de méchant, de vrai méchant. Pauline Dubuisson, La Petite Femelle, vous parliez de La Petite Femelle, Pauline Dubuisson, dans la presse, c'était l'ange noir, la diabolique, la ravageuse, la maléfique, tout ce qu'on veut. Et donc, moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est d'aller voir derrière, et souvent, on trouve des bonnes personnes. Mais comme moi, ce que j'aime dans la vie, et je le dis vraiment très simplement, c'est vrai, c'est l'humanité. Pour moi, le mal, c'est le contraire de l'humanité, je pense pas. Enfin, le mal tel qu'on l'entend là. Donc moi, je mets plutôt ça de côté. Donc je vais laisser parler les spécialistes.
Julien Bisson.
Et ça veut dire que le mal, vous ne l'avez jamais rencontré dans votre vie?
Non, je crois pas. J'ai rencontré des sales types, hein, mais comme tout le monde. Mais le mal, non. Pour moi, le mal, c'est vraiment un truc. Et puis, comme disait mon voisin, il y a vraiment quelque chose presque de théologique, quoi. C'est-à-dire que le mal, c'est une notion. Alors, à part des tueurs en série, j'ai jamais croisé de tueurs en série, je pense pas. Des tueurs en série complètement comme possédés par le désir de faire souffrir. Mais sinon, le mal, non. Il y a des gens méchants et des gens gentils.
Et vous, votre définition du mal, Benjamin Patineau, alias Bolchevik?
Moi, je m'intéresse surtout à la pop culture, et du coup, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans la pop culture, c'est comme souvent des récits assez manichéens, où c'est très clair qui est le bien, qui est le mal. Le méchant, il est habillé comme un méchant, il fait des trucs de méchant. Et en même temps, je trouve ça intéressant, puisque même dans ces récits-là qui sont très caricaturaux, qu'est-ce qu'on va désigner comme le mal? Comment il va se comporter? Et qu'est-ce qu'il va représenter? Ça dit quand même quelque chose des auteurs, du moment qu'on vit, de la société. Alors que, effectivement, dans la vraie vie, personne quasiment ne se revendique du mal ou être le méchant de l'histoire.
Laurent Beck-Shankland.
Oui, ce qui est intriguant, c'est qu'en fait, il y a une évolution quand même dans les médias de la présence du mal. Il y a une étude qui vient d'être publiée dans JAMA Pédiatrique, une revue scientifique, qui a analysé 160 000 films en anglais pour regarder la densité, la sémantique justement de la destruction, de la mort, des assassinats. Et en fait, depuis 50 ans, on a une intensification de contenu violent dans les médias. Et donc c'est intéressant de voir finalement on a besoin d'augmenter peut-être la présence du mal pour l'apprivoiser ou bien pour le comparer ou bien pour le regarder.
Julien Bisson.
Oui, moi j'ai l'impression que ce qui nous intéresse aussi dans ces personnages maléfiques, c'est moins le mal lui-même que ces manifestations et ce à quoi il s'attaque. On a écouté un extrait d'American Psycho de Bret Easton Ellis avec ce personnage de Patrick Bateman qui est un tueur en série. Et ce qui est frappant, c'est que Bret Easton Ellis écrit ce roman dans les années 80 et que Patrick Bateman est fasciné par Donald Trump. Il le dit dans le roman, il est fasciné par Donald Trump. Or, Patrick Bateman, à qui s'en prend-il? Aux femmes, aux pauvres, aux immigrés. Ce sont les personnages à qui il a envie de s'en prendre violemment. Et il y a quelque chose dont on voit dans ce roman de façon violente, quelque chose qui va venir traduire une violence symbolique qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui.
Philippe Génada, pourquoi aimons-nous autant les méchants dans la fiction et pas forcément dans la vie réelle?
Eh bien, je n'en sais rien. si, parce que ça simplifie tout quoi, dans la fiction, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'on a besoin... Mais moi, je crois qu'on est plus... fasciné par le malheur que par le mal, en fait. J'ai travaillé 25 ans à Voici. On faisait des... Enfin, ils faisaient des sortes de... Pas de sondages, mais des réunions avec des panels de lecteurs. Et ce que les lecteurs avaient envie de lire, c'était pas les mariages, les naissances de bébés, le bonheur idyllique, c'était les divorces, les cuites, la star qui finit dans le caniveau parce qu'il est ivre mort, la cellulite, enfin des choses comme ça, quoi. Je crois que c'est ça plus que... alors,
c'est la Schadenfreude, hein, c'est la joie mauvaise, hein, c'est d'éprouver cette joie mauvaise face au malheur d'autrui.
Ouais, c'est ça. Quand on dit le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est pas juste si tu te casses la jambe, je suis content parce que je prends ta place au boulot. C'est ça fait presque plaisir, enfin plaisir, j'exagère, hein, mais ça rassure de voir que les autres sont malheureux. Donc l'incarnation de ça dans la fiction, c'est à l'extrême, c'est vraiment le diabolique.
Benjamin Patineau.
Oui, mais je pense qu'il y a un truc aussi qui est un petit peu cathartique dans le fait de voir les méchants dans les œuvres de fiction un petit peu caricaturaux, parce qu'ils sont un peu libérés de tout un tas de contraintes que le héros, qui peut être un petit peu chiant, un petit peu béni, oui, n'a pas. Ils peuvent avoir quelque chose de magnifique. On peut aussi même, c'est ça le syndrome Magnéto, on peut aussi adhérer quelque part à ce qu'ils font, parce que c'est eux qui donnent le là, c'est eux qui agissent et c'est le héros qui réagit. Ils peuvent avoir un projet et quelque part avoir presque une prime à la radicalité dans ce qu'ils font et qui font qu'ils sont plus séduisants aussi.
Donc je le rappelle, Magneto, c'est ce personnage de super vilain dans l'univers Marvel, dans la saga X-Men, hein, une saga créée dans les années 60 par Stan Lee et Jack Kirby, en plein mouvement des droits civiques. Hein.
Oui, effectivement, ouais, à la base, c'est ça, même si en fait c'est très très peu abordé, mais on sent que c'est dedans, puisque c'est des mutants, c'est des gens qui sont rejetés par la société parce qu'ils développent des super pouvoirs à l'adolescence, et donc c'est dans cette ère du temps, et Magneto en fait a évolué après avec d'autres auteurs, notamment Chris Claremont, qui a amené cet élément qui est très très important maintenant dans le personnage, qui est que c'est un rescapé des camps, et que lui, s'il est justement le méchant, c'est au sens où il est radicalement pour dire plus jamais ça, et que du coup il va aller plus loin que ses petits confrères dans la lutte contre les oppressions envers les mutants.
Bonjour Gwenaëlle Boulay.
Bonjour.
Rédactrice en chef de Poppy et Pomme d'Api. On va offrir Pomme d'Api, le dernier numéro, à Philippe Génada, parce qu'il paraît que vous admirez Philippe Génada.
Ah ouais, puis là, voilà. Vraiment, il y a du mal, il y a du suspense. Voilà,
j'attends.
Et oui, parce qu'il y a une enquête au jardin.
Mais
hein,
tout
c'est
à
la
fait.
Une du nouveau Pomme d'Api. Quel est le menu de votre chronique, Ma vie de parent?
Eh bien écoutez, nous on va voir pourquoi en tant que parents, les méchants sont nos meilleurs amis. Et donc pourquoi il faut éviter de mettre nos enfants sous cloche.
Puisque le bien me rejette, j'irai rejoindre le mal.
Grand bien vous fasse.
S'il doit y avoir un maître dans le monde de demain, ce sera moi.
Sur France Inter.
Pourquoi est-on fasciné par le mal, hein? C'est notre thème, avec la complicité du un des libraires actuellement en kiosque. Philippe Génada, je rappelle que vous publiez La désinvolture est une bien belle chose. Vos derniers livres mettent en scène des figures considérées comme le mal incarné selon la presse et l'opinion publique de l'époque. Pauline Dubuisson, Lucien Léger et d'autres. Mais pour vous, c'est un peu trop commode de désigner quelqu'un comme un monstre. Et puis, il y a deux phrases qui me viennent à l'esprit quand je lis vos livres. Tous nos monstres sont en nous, de la philosophe Simone Veil, et comprendre et ne pas juger, de Simenon. Tous les monstres sont en nous. Pour vous, comme pour Simone Veil, le mal est sans doute tapis, je vous cite, en veilleuse, en chacun de nous, et peut se révéler à tout moment si on ne le maîtrise pas.
Oui, je crois, c'est une évidence, hein, c'est une porte ouverte qu'on a un peu ou plus ou moins de mal à l'intérieur de nous, mais le reporter sur les autres, vous parliez du Printemps des Monstres. Dans le Printemps des Monstres, c'est vraiment vraiment le symbole parfait, c'est-à-dire que c'est un type qui dit avoir étranglé un petit garçon et qui s'en vante et qui écrit aux parents pour leur dire...
Lucien Léger,
ouais. Qui écrit aux parents pour leur dire « Je comprends que vous soyez triste, mais mettez-vous à ma place. Moi, j'ai vu ces petits yeux qui se fermaient quand je l'étranglais. » Enfin, c'est les parents qui reçoivent. Donc, c'est vraiment le... Et en fait, quand on creuse là-dessus, quand on essaye d'enlever un peu les peaux de bête qu'on lui a mis dessus pour en faire le monstre parfait, on se rend compte que le moins monstrueux de toute cette histoire, c'est lui. C'est-à-dire, et on voit qu'autour, les parents... Enfin, je vais pas tout raconter, mais... Donc voilà, c'est moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on, c'est ce principe de bouc émissaire, quoi. C'est-à-dire que quand toute une société, pour des raisons qu'on peut plus ou moins comprendre, met un costume de monstre sur une personne, ça évite de regarder à l'intérieur de soi ce qu'il y a. Et puis, bah voilà, il faut pas que ça tombe dessus. Mmh. Ceux sur qui ça tombe, et encore évidemment, on a ça tous les jours. Hein. C'est pour ça, moi, je fais attention aussi, parce que quand on regarde les médias, je dis pas la société est con et moi je suis intelligent. Hein. Moi, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire qu'il y a régulièrement des gens dont je me dis, des gens dans l'actualité, dont je me dis, voilà, le garçon qui a tué. Tant qu'on ne sait pas, il faut aller chercher derrière. Moi, j'essaye de regarder derrière. C'est plus facile à faire sur des histoires qui ont 50 ans que maintenant.
Tous nos monstres sont en nous. Et comprendre et ne pas juger, cette fameuse phrase de Simenon, vous, ça vous aide à mieux vivre, à mieux tenir à distance le mal qui sommeille en nous tous?
Ouais, c'est ce que j'essaye de faire tout le temps dans ma vie. J'allais dire dans ma vie et dans mes livres, ça se mélange, donc je passe mon temps à écrire. Donc là, vous parlez de Simenon, le prochain livre là sur lequel je suis en train de travailler, il y a un rapport assez direct avec Simenon, avec Maigret, et c'est exactement le principe, c'est-à-dire que c'est une jeune femme qui a été tuée, qui est présentée dans la presse à l'époque comme vraiment...
En 1949.
Ouais, il fallait pas le dire, alors, trop tard. Qui est présentée à l'époque vraiment comme une fille à moitié dégénérée. Enfin, on lui met plein de qualificatifs sur la tête. Et j'essaye de comprendre au lieu de juger tout de suite. Ouais.
Tous ces criminels que vous décrivez dans la serpe, dans la petite femelle, tous ces criminels nous tendent d'un miroir, ils nous incitent à nous regarder, regarder en soi, regarder la société.
Oui, je sais pas, mais en l'occurrence, les gens dont je parle dans mes livres sont des gens, pour le coup, comme nous, quoi. C'est-à-dire que finalement, justement, moi, ce que j'essaye de montrer, c'est que on leur a appliqué toutes sortes de choses, mais ça incite à se regarder soi-même, mais à regarder des gens qui nous ressemblent. C'est Pauline Dubuisson, elle pourrait être assise autour de cette table. Ce serait tout à fait la même chose que nous ici, quoi. Donc moi, c'est ce que j'essaye de montrer, qu'ils sont comme nous. Mais c'est un peu différent, c'est que finalement, ces gens n'ont rien fait de mal, les gens dont je parle, n'ont rien fait de... J'écrirais pas, je pense, un livre sur Fourniret ou sur Guy Georges, quoi.
Et Julien Bisson, oui. Rédacteur en chef des Libraires.
Oui, j'allais vous demander, vous nous avez dit en début d'émission que vous n'étiez pas fasciné par le mal, et du coup, la question qu'on a envie de vous poser, c'est pourquoi choisir tel fait divers plutôt qu'un autre ? Est-ce que, si ce n'est pas le mal qui vous fascine, qu'est-ce qui fait que vous allez être intéressé par cette histoire plutôt qu'une autre ?
Alors, ce qui me fascine plutôt, c'est le mal que peut faire la société, c'est-à-dire les braves gens, comme disait Brassens, à des gens qui n'auront finalement rien fait. Mais en même temps, qu'est-ce qui m'incite à choisir ? C'est dur, il y a une part d'inconscient. Il y a une jeune femme qui a fait une thèse ou un mémoire, je sais pas quoi, sur mes derniers livres, là, et qui m'a fait remarquer quelque chose que je n'avais même pas remarqué, c'est-à-dire que tous les gens dont je parle sont des gens qui ont au départ toutes les qualités, les atouts, une bonne famille, ils sont intelligents, ils sont beaux, ils sont drôles, ils ont plein de talents différents, et tout d'un coup, ils leur tombent, en général, entre 20 et 25 ans, un truc sur la cafetière qui fracasse leur vie. Mais ça, moi, je m'en rends pas compte, en fait, je me dis, mon inconscient me pousse vers ça. Donc voilà, je pense que c'est comme quand on va vers quelqu'un dans la rue, on sait pas trop pourquoi, mais à l'intérieur, on a quelque chose qui sait pourquoi.
Et vous ne croyez pas, Philippe Génada, à la figure du mal absolu, à l'image du docteur Mengele, de Michel Fourniret, d'Émile Louis, de Guy Georges ou encore de Dominique Pellicot ? Pour vous, vous le dites dans le 1 des libraires, ce sont des sales types affreux et méchants qui ont commis des actes monstrueux, mais qui ne sont pas le mal incarné. Et vous dites une chose très forte à propos de tous ces sales types, surtout des hommes, bizarrement. Quand on regarde au fond, on croit contempler l'abîme, on ne voit que le carrelage.
Ouais, en fait, on se rend compte que c'est pas grand-chose, quoi. Michel Fourniret, c'est juste, entre guillemets, hein, un sale type qui a fait des horreurs, quoi. Mais c'est pas... On voit pas le diable, on voit pas une noire... Enfin, s'il y a une noirceur d'âme, mais je veux dire, c'est presque rien. C'est juste... C'est un type qui fait n'importe quoi et qui fait du mal. Enfin voilà, il n'y a rien de très profond là-dedans.
Laurent Beg-Chancland, je rappelle que vous êtes professeur de psychologie sociale à l'Université Grenoble-Alpes.
Oui, le mal, en fait, pour Goethe, c'est ce que la raison ne peut pas comprendre. Le diable, c'est effectivement ce qui nous échappe complètement. Et peut-être que ce besoin de contrôler, d'anticiper la rencontre qui pourrait se produire avec le mal, nous amène à le projeter sur d'autres ou à craindre qu'il soit présent, en fait, effectivement. On sent bien qu'il est en nous aussi, c'est-à-dire qu'on a des recherches qui ont été faites sur les pensées de blesser, de tuer, d'étrangler. Et en fait, la plupart des gens ont ces pensées qui les traversent, hein, effectivement, un jour ou un autre.
Ce sont des pensées intrusives.
Voilà, tout à fait, des rivaux en amour, ou bien effectivement des personnes qui vous ont humilié, ça fait émerger évidemment des pensées très violentes qui presque jamais en fait donnent lieu à des comportements réels, mais effectivement il est présent. Mais ce qui est encore plus présent, c'est notre propension fondamentale à voir le mal chez les autres, parce que précisément on ne comprend pas qu'est-ce qui détermine leur comportement, et il est plus simple de penser qu'ils sont l'essence du mal que d'imaginer toutes les circonstances historiques, biographiques qui vont expliquer en réalité pourquoi ils ont eu ce comportement à tel moment.
Benjamin Patineau, alias Bolchevik.
Oui, c'est ça qui est intéressant, je trouve aussi, c'est que c'est les racines du mal. On essaie de comprendre à travers un fait divers ou un personnage de méchant en tant que symptôme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a provoqué dans la société. Et c'est ça qui est le plus difficile, plutôt que de dire on va juste punir le méchant parce qu'il est méchant et puis voilà, il n'y a rien à comprendre derrière. La vraie épreuve, c'est d'essayer de comprendre ce qui a créé ça et éventuellement éviter que ça se reproduise.
Gonelle Boulet.
Souvent, ça revient à la figure du diable, etc. Mais effectivement, étymologiquement, le diable, c'est ce qui sépare, ce qui divise.
C'est donc, diabolo en grec, voilà. Celui qui sépare.
Voilà, et donc ce qui est intéressant, c'est, je trouve, c'est que, effectivement, alors dans la Bible, on dit « Ah, c'est ce qui sépare de Dieu, etc. » Mais en fait, c'est la recherche de ce qui va nous séparer de notre propre humanité. Et donc, effectivement, soit on se dit « Tout est chez l'autre, le monstre, la fameuse figure du monstre », soit on essaye de se dire « Dans ces figures qui ont commis du mal, on va dire, à travers leurs actes, qu'est-ce qui, dans ces actes, me sépare de l'humanité et va me mettre au banc de la société ?» Et le monstre, c'est ça, c'est celui qu'on va mettre au banc de l'humanité, qui ne fait plus partie des êtres humains. Et moi, il y a un livre que j'avais beaucoup aimé aussi, qui s'appelait « Les monstres n'existent pas », d'Ondine Milo, qui est sur le cas de Dominique Cotrèze, cette femme qui avait donc, tué, je sais pas, 8 de ses nouveau-nés, quelque chose comme ça. Et c'est pareil, c'est un peu comme on arrive dessus, on est dans la condamnation totale dès le départ, on se dit c'est inhumain, etc. Et puis tout à coup, on va rentrer dans l'intimité, dans l'histoire de cette femme qui ne fait rien pour qu'on l'aime, hein, au départ. Elle a tout, justement, de cette figure monstrueuse. Et petit à petit, on va comprendre un peu toute son histoire. Et ça, je trouve que c'est une histoire formidable. Parce que, aussi, par exemple, en tant que mère, je trouve ça extraordinaire de se confronter à ces sentiments ambivalents, parfois terribles, qu'on peut ressentir et que la société ne nous permet pas de dire.
Philippe Genada.
Je fais une petite parenthèse, je viens de comprendre pourquoi un diabolo s'appelait un diabolo. Le truc, c'est parce que ça sépare, la corde sépare les deux. Bon, pardon, c'est juste, mais je suis content.
C'était très intéressant. Enfin,
oui, c'est intéressant. Et le diabolo grenadine, du coup.
Julien Bisson.
Oui, et puis il faut quand même rendre aussi à la littérature la capacité d'arriver à se mettre dans la tête de ces assassins. Je pense évidemment au Crime et Châtiment de Dostoïevski. On va se mettre dans la tête de Raskolnikov pour essayer de comprendre aussi, non pas simplement les actes, mais aussi ce qu'il se raconte. Quelles sont les justifications que des personnes méchantes, en tout cas des personnes qui commettent des actes répréhensibles, se racontent pour pouvoir les faire. Et donc, il y a des actes qui vont durer 30 secondes, une minute, Raskolnikov, l'assassinat de sa voisine, et de la logeuse et sa voisine, ça dure une minute. Et on a 600 pages pour essayer de comprendre pourquoi cet acte a pu avoir lieu.
Benjamin Patineau.
Oui, ça me fait penser à un film très marquant, je trouve, récemment, c'est La Zone d'intérêt.
Adapté d'un roman de Martin Amis.
Oui, et qui montre des nazis, le directeur du camp d'Auschwitz, mais comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire pas Dark Vador et des figures du mal en cuir, juste comme il y a beaucoup dans la pop culture, mais qui montre que c'est un petit fonctionnaire un peu minable, qui fait un des pires trucs du monde, mais qui est juste une personne assez lambda. Et qui est juste animé par un moment de l'histoire, une idéologie qui est réelle. Et ça, c'est encore plus terrifiant, parce qu'on se dit, en fait, c'est quelqu'un qu'on pourrait croiser à la cafette. Il est le produit d'un monde occidental, d'une époque du monde occidental, et c'est pas un accident de l'histoire où ils auraient été possédés par le diable et ça aurait donné ces choses-là.
Je commence à m'inquiéter en vous observant dans le studio. Laurent Beck-Shankland.
Oui, on parle à l'instant du carrelage. Effectivement, ça renvoie à cette idée de banalité du mal, en fait. Hein, ce thème d'Anna Arendt, hein, effectivement, qui a beaucoup inspiré aussi les psychologues sociaux. C'est l'idée que finalement, ce besoin d'essentialiser, il est contesté par finalement toute l'histoire du génocide, qui montre que ce sont des personnes souvent animées par simplement des motivations de conformisme, de suivi idéologique, mais pas forcément des personnes travaillées par du sadisme ou bien par effectivement un mal absolu. Et on a transformé après cette prise de conscience par la création littéraire finalement du bourreau mélomane, c'est-à-dire finalement cette personne maléfique qui se cache sous l'apparence d'une personne policée. Et finalement, cette image est également un peu fausse, parce qu'en réalité, évidemment, des personnes qui commettent des actes d'une grande gravité et d'une grande destructivité sont effectivement marquées par une histoire le plus souvent qui les a préparées à transgresser.
Philippe Genada, quand vous préparez un roman consacré à un fait divers, c'est le cas depuis une dizaine d'années, c'est ça, une douzaine d'années, vous faites le spéléologue de ce crime que vous analysez dans toutes ces dimensions, à la fois policières, judiciaires, humaines, médiatiques, sociopolitiques, psychologiques. Et votre but, vous le dites, et c'est très joli, c'est de retirer au monstre son costume.
Oui, c'est ce que j'essaye de faire, mais parfois, il faut enlever plusieurs couches, comme pour Lucien Léger, par exemple. C'est-à-dire que c'est pas le monstre qu'on imaginait, mais c'est loin d'être un saint ou un ange non plus.
Ce que vous dites dans cette affaire, hein, c'est tout le monde ment, truc, triche, et les pervers, les fous, les odieux, les monstres ne sont pas souvent ce que l'on désigne comme tel.
Oui, en tout cas le moins malsain de toute cette galerie de personnages qui comprend beaucoup de gens, y compris son avocat, y compris les gens autour de lui, enfin bon, c'est pseudo-ami, c'est lui le moins malsain. Donc, encore une fois, c'est aussi pour ça que je me penche pas sur, encore une fois, Fourniret ou je ne sais qui, parce que j'ai presque peur de trop enlever le costume du monstre et de me dire, bah, finalement, j'irais bien boire un coup avec lui, quoi. Alors que je ne veux pas boire un coup avec Fourniret.
Écoutons le procureur de la République de Nantes, Xavier Roussin, qui s'exprimait au moment de la découverte des corps dans l'affaire Dupont de Ligonnès. C'était le 21 avril 2011.
On peut désormais parler d'une exécution méthodique d'Agnès Dupont de Ligonnès et de ses quatre enfants. Les recherches ont établi que Xavier Dupont de Ligonnès avait récemment hérité de son père d'une carabine. La poursuite de sa recherche et son témoignage sont évidemment essentiels pour déterminer précisément les causes de ces cinq morts.
Philippe Génada, vous auriez pu écrire sur l'affaire Dupont de Ligonnès ?
Non mais alors, enfin je ne pense pas parce qu'il n'y a rien à quoi s'accrocher hein, pour l'instant. Mais il y a quelques nuits, je me suis réveillé en pleine nuit. Vous savez, enfin je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi parfois, je ne sais plus comment je m'appelle ni où j'habite, enfin bon. Et là, j'ai cru pendant, en vrai, hein, 3-4 secondes, être Xavier Dupont de Ligonnès. Et je sentais une détresse, une souffrance, un poids terrible d'avoir tué toute ma famille. Enfin, vraiment, j'étais écrabouillé par le remords. Et donc je me dis, alors peut-être pas, hein, peut-être qu'il est au Brésil en train de siroter un cocktail et de dire qu'il a la belle vie, mais même comme ça, dans l'inconscient, je me dis, ce type doit... Alors, il y a eu... il s'est passé quelques instants, même plus que quelques instants, d'horreur, de saloperie, de monstruosité. Et peut-être qu'il regrette.
Mon cher Philippe Génada, je connais quelques psychanalystes, si vous voulez. justement, je veux pas. Nous sommes très bien pourvus. Julien Bisson.
Oui, ben justement, vous parliez d'enlever le costume du monstre. Est-ce que pour enlever ce costume, il faut aussi un peu se mettre à nu soi-même pour aller voir sa propre noirceur ?
Oh ben moi, j'en ai pas, Julien, bien sûr. Je suis pur. Non, je pense qu'il faut juste essayer de regarder les gens, et soi-même, on le fait beaucoup, mais regarder les gens avec bienveillance, quoi, c'est tout. Essayer d'avoir un peu de bienveillance, et puis de... Alors parfois, on dit, ben même avec de la bienveillance, qu'il aille au diable, justement. Mais voilà, donc... J'essaye de pas trop me regarder. On passe notre vie à faire ça, donc...
Pourquoi la figure du serial killer, du tueur en série, ne vous intéresse pas ?
Oh, pas du tout, parce que justement, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est l'humanité, ce sont les êtres humains, l'âme humaine. Et pour moi, et sans doute parce que peut-être ça se rapproche du mal absolu ou de je ne sais quoi, pour moi, un serial killer n'a rien d'intéressant. Alors que quelqu'un qui fait des horreurs, hein, qui tue ses enfants ou qui... je sais pas, qui tue sa femme ou son mari, il y a de l'humanité, il y a des raisons, il y a tout un emboîtement autour. Un serial killer, c'est juste un fou furieux, pour moi, ça me tente pas, ça m'intéresse pas.
Laurent Beck-Chanclon.
Oui, je pense aussi, par rapport à la question du mal, il y a le mal physique, c'est-à-dire la sensation qui déstructure la pensée et l'action. Et là aussi, une clé qui peut être évoquée, c'est le fait que si on est autant fasciné par le mal, c'est parce qu'en fait, il perturbe des routines et des attentes et que finalement, eh bien, la fascination, elle va tenir au fait qu'il a un pouvoir de déstructuration important. Si vous prenez des personnes, par exemple, dans une pièce vide et vous les laissez pendant un quart d'heure sans autre possibilité de faire quoi que ce soit que de s'administrer des chocs électriques, volontairement. Voilà. Eh bien, il se trouve que la plupart des gens, il y a eu une publication dans Science là-dessus, la plupart des gens préfèrent se faire mal que de s'emmerder. Voilà. Et donc, je crois que c'est l'idée qu'effectivement, le mal, c'est aussi quelque chose qui nous distrait, qui nous fait sortir de routine. Et c'est, à mon avis, une clé qui explique aussi la fascination qu'on a pour ce phénomène.
Commentaire, Philippe Génada ?
Non, vous allez sortir des petits trucs électriques.
rassurez-vous. Benjamin Patino, alias Bolchegui, que parmi les méchants qui vous fascinent le plus, il y a donc Magneto, le super vilain dans l'univers Marvel, dans les X-Men. Expliquez-nous pourquoi cette figure de Magneto vous intéresse autant.
Alors déjà parce que du point de vue du public, en fait, c'est pas que moi, c'est-à-dire que c'est un méchant qui fascine énormément de lecteurs de comic book et aussi de spectateurs de cinéma, puisqu'il a été adapté assez bien. Et justement, c'est un personnage qui a toujours été traité comme étant à la limite. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le comic book, en fait, c'est comme des personnages qui existent depuis des décennies. Il y a eu plein d'auteurs, d'autrices qui s'en sont emparés, et tout le monde a un angle différent. En fait, Magneto, il appartient à personne. Et du coup, à chaque fois que vous incarnez Magneto dans un film, dans une nouvelle série X-Men, ça dit quelque chose de la décennie dans laquelle c'est fait, des auteurs qui passent dessus, et ça dit toujours énormément de choses. Et c'est un personnage qui est comme ça extrêmement malléable et qui appartient à personne et qui appartient à tout le monde. Et c'est une figure de méchant du coup qui peut être investie de manière extrêmement riche.
Et pourquoi vous parlez donc de syndrome Magneto ?
Alors syndrome parce que du coup le livre est organisé en différents symptômes. En fait, Magneto c'est le maître étalon en fait pour moi parce qu'il les a un petit peu tous. Et l'idée c'était de trouver plein d'angles qui pouvaient expliquer pourquoi les gens se retrouvaient dedans, pas juste par adhésion idéologique parfois, comme je disais tout à l'heure, mais ça peut être aussi parce que justement c'est quelqu'un qui est le symptôme de quelque chose, qui a été victime de quelque chose, et du coup les gens peuvent se retrouver dedans puisqu'ils y reconnaissent une injustice, quelque chose comme ça. C'est le cas de par exemple ce qui a été fait dans le film Joker, c'était une réinterprétation du personnage qui était beaucoup là-dessus, comme la naissance du mal, comme victime de la société finalement. Aussi le fait que par exemple le méchant peut être une forme de représentation aussi, parce qu'on parle de monstres comme justement les gens qui ont été bannis de l'humanité. Il y a aussi des gens qui se sentent, parce que c'est le cas, sortis de l'humanité pour des questions raciales, religieuses, de genre, de sexualité. Et bien souvent, dans la pop culture, on va voir que c'est par le méchant qu'on va soit stigmatiser les gens là-dessus, soit les gens vont se représenter à travers le méchant.
Vous nous direz tout à l'heure, Philippe Génada, quels sont les méchants qui vous fascinent le plus dans la littérature, le cinéma, ou les séries, ben vous avez quelques minutes hein, pour réfléchir. Vous voyez, il est 10h40, il est temps de retrouver Ma vie de parent de Gonelle Boulay.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants,
après tout, pourquoi pas.
Salut.
Merde.
Alors, dans votre famille, Gonelle Boulay, les méchants existent vraiment ?
Eh oui, il suffit de demander à mes enfants, ils vous diront à l'unanimité, je parle comme si j'en avais 12 des enfants, qu'un être vivant qui devient soudain écarlate, les yeux exorbités, capable de s'agiter dans tous les sens en éructant des borborygmes tels que « Rangé, je tremble, je suis fatigué, attends !» Oui, cet être-là est un méchant. Et il s'avère que parfois, un peu au bout du rouleau, eh bien cette méchante, c'est moi. Mais bon, passons. Non, si on aime tant les méchants de fiction à la maison, c'est sûrement parce que grâce à eux, étrangement, nous avons pu et pouvons encore vivre de délicieux moments de complicité et d'amour.
Ah oui, bon, bah chez vous, le grand méchant loup, Voldemort ou Dark Vador ont apporté de l'amour.
Évidemment. Car quoi de plus chouette que de se glisser sous une couette pour lire ou regarder ensemble une histoire qui fiche la trouille, mieux encore, qui fait naître un irrésistible sentiment de révolte. Un bon méchant, c'est un peu comme un mauvais syndic de copropriété. Il n'y a rien de mieux pour créer de la solidarité et tisser un sentiment de cohésion au sein d'un collectif. Prenez la belle-mère d'Ansel et Gretel, le terriblement cupide comte Olaf dans les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, ou l'ignoble Beauty Smith dans Cro-Blanc. Vous n'avez qu'une envie, vous serrer les coudes et unir vos forces pour faire la peau à chacune de ces raclures. Le méchant, s'il est bien campé, a cela de bon qu'il galvanise notre peur, certes, mais surtout notre révolte. Pourquoi le monde laisserait-il faire ça ? Pourquoi le gentil ne peut-il pas triompher là tout de suite ? Mais s'il triomphait là tout de suite, n'aurait-il plus d'histoire ? Pour vibrer tous ensemble, donc, les méchants nous sont indispensables.
Mais vos méchants préférés, à vous, ce sont les méchants torturés, poussés vers le mal à cause de leurs blessures ?
Bah bien sûr, c'est mon côté aussi un peu badinter, qui aime l'idée que tout un chacun mérite qu'avant d'être puni si nécessaire, on tente de le comprendre. Et cette porte ouverte vers l'empathie est la base de notre justice. Et cette idée s'inculque très jeune, avec un film, par exemple, comme Kirikou. Et oui, si la sorcière est si cruelle, c'est parce qu'elle souffre. Délivrée de son épine, elle va enfin pouvoir se transformer et épouser la vie, après avoir épousé Kirikou. Les tout-petits ont besoin, dans les contes, de pouvoir classer le bien et le mal en deux catégories bien tranchées pour pouvoir construire leur système moral. Mais plus ils vont grandir et plus les enfants vont pouvoir affiner leurs réflexions et accepter des modèles moins binaires. Donc à partir de quand un être humain devient-il un monstre et sort-il de la communauté humaine ? Les apparences ou les actes suffisent-ils à définir un homme ou une femme ? Quels actes est-on soi-même autorisé à faire ou à laisser faire pour combattre la violence ? Et en cela, une série comme Squid Game est passionnante à regarder avec nos ados. Alors on a une mise en scène ultra esthétisée de la violence, des dilemmes moraux, une complicité du spectateur, tout y est. Et donc, à tout âge, nos enfants ont besoin de se confronter au mal, pour de faux, dans les films ou les livres, de désirer ardemment le vaincre pour pouvoir se construire un système de valeurs et de défense. Alors, si vous souhaitez leur faire un cadeau, ne les mettez pas sous cloche, mais offrez-leur un peu de Cruella, de Dark Vador, de Scar ou de Jafar, et ils vous remercieront plus tard.
Benjamin Patineau, alias Bolchegeek, vous n'arrêtiez pas d'approuver ce que disait Gwenaëlle Boulay.
Je valide toutes les références. Ça a l'air super bien, la maison...
Et vous, Philippe Génada, alors quelles sont les figures du mal dans la fiction qui vous fascine le plus ?
Alors, j'ai pas réfléchi parce que j'écoutais Gwenaëlle.
Alors vous nous direz ça après le disque.
Non, je peux le dire maintenant.
Allez, allez-y.
Et pas besoin de réfléchir en fait. Je me rends compte, je repensais à un truc. Je dis le mal ne m'intéresse pas, etc. C'est pas vrai. Quand je lisais, alors on va voir que mon attirance et ma tolérance pour le mal est assez mesurée quand même. Quand je lisais Mickey ou Picsou Magazine, ouais, quand j'étais petit, alors Mickey me gonflait, le bonnet gentil, tout lisse. J'aimais bien Donald parce que c'était un peu moi, le pauvre gars qui n'arrive que des malheurs. Mais celui qui me fascinait, c'était Picsou.
Ah bah oui.
Picsou avec ses mensonges, ses traîtrises. Donc en fait, moi, je suis resté à peu près là. Ma limite, c'est Picsou. Et c'est pour moi l'incarnation du mal absolu.
Julien Bisson.
Oui, Picsou, le grand capitaliste. Et oui, c'est un personnage assez fascinant parce qu'il essaie d'être gentil, alors même qu'il il porte en lui le souvenir de la façon dont il s'est enrichi et une façon dont il s'est enrichi qui n'a pas toujours été la plus honnête possible.
Laurent Beck-Champlain.
On en parle ainsi, on voit le mal, en fait, en parler ensemble, ça nous fait du bien. Dans un sens, puisque finalement, ça nous met face à quelque chose qui est différent de nous. Alors, les recherches qui ont été faites sur, par exemple, les relations entre nos groupes et les groupes extérieurs montrent bien que désigner finalement le mal, c'est aussi une façon de se rapprocher des personnes qui nous ressemblent et qui partagent la même conception du mal. Donc, dans certains sens, le paradoxe du mal, c'est qu'il permet de créer des relations plus altruiste peut-être au sein d'un groupe bien délimité, bien sûr. Malheureusement, évidemment, il y a des frontières.
Et vous devriez donc, Philippe Génada, de temps en temps écrire dans Pomme d'Api. Je pense que ce serait pas mal. Merci beaucoup, Gwenaëlle Boulay. Tous les épisodes de Ma vie de parent et ceux de Julien Bisson également sont à partager sur l'appli Radio France.
France Inter.
C'est le triomphe du mal.
C'est le triomphe du mal.
Grand bien vous fasse.
Le mal revient toujours, avec ou sans moustache.
Ali Rebbi.
Pourquoi est-on fasciné par le mal ? C'est notre thème ce matin avec la complicité du un des libraires actuellement en kiosque. Avec nous l'écrivain Philippe Génada, le professeur en psychologie sociale Laurent Beck-Champlain, le youtubeur et auteur Benjamin Patineau alias Bolchegeek et le journaliste Julien Bisson. Et avec nous deux stagiaires de 3e ici à Radio France, Juno et Héna, qui ont choisi deux méchants qui les fascinent. Bonjour Juno et bonjour Héna.
Bonjour.
On est ravis de vous avoir autour de la table. Alors Héna, on va commencer avec toi. Tu es donc en 3e dans un collège de la banlieue parisienne. Et il y a un méchant qui te fascine assez. Et je suis assez étonné que tu l'aies choisi. Parce que moi aussi, Et pareil pour Julien Bisson, c'est un méchant qui nous a assez marqué. C'est Jack Torrance dans l'adaptation du roman The Shining de Stephen King.
Ouais, c'est un méchant qui m'a beaucoup fasciné. Parce que j'ai regardé ce film il y a quoi 2 ans maintenant, je pense, assez jeune. Mais j'ai pas lu la nouvelle de Stephen King, mais ce qui m'a surtout marqué, c'est le jeu d'acteur que nous livre Jack Nicholson, qui est incroyable, on peut le dire, et qui fait vraiment vivre le personnage.
Et quel rapport tu as par rapport à cette figure très très flippante de Jack Torrance dans Shining ? Explique-nous un peu, qu'est-ce que tu ressens face à son incarnation du mal ?
Bah, j'étais assez bluffée quand même, parce que c'est vraiment un antagoniste en personne, quoi. Et non, surtout que le film est incroyable et que ouais, on voit vraiment... comme une descente aux enfers, en fait, dans le film, il évolue vraiment vers le mal et je trouvais ça fou.
Ouais, le film le film de Kubrick est sorti en 1980 et bizarrement, Julien Bisson, quand je vous ai demandé de choisir quelques figures du mal pour préparer cette émission, vous aviez choisi Jack Torrance.
Oui, parce que c'est un personnage tout à fait en effet fascinant et on voit tout à fait ce personnage qui descend cette descente aux enfers au moment où il arrive à l'hôtel Overlook. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que en réalité, c'est un personnage qui est mauvais dès le départ et l'un des principaux actes de violence qu'il commet se situe hors champ avant même le début du film, puisqu'on découvre son fils, le petit Danny, avec le bras cassé. C'est dans le roman, et dans le film, on voit qu'il a l'épaule démise, et on comprend qu'en fait, c'est lui, le père, qui lui a cassé le bras. La mère dit, on ne sait pas, peut-être que c'est un accident, mais parce que Jack Torrance est un alcoolique. Et en réalité, c'est aussi une œuvre sur la violence masculine profonde, avant même d'avoir des effets surnaturels.
Benjamin Patineau, alias Bolchegeek.
Oui, et en plus, c'est typiquement, ce qui est terrifiant, c'est un film où on le suit lui. C'est-à-dire que ce n'est pas une figure en fond, etc. On est avec Nicholson tout le temps, et on est quelque part dans sa tête. L'Overlook Hotel, c'est un peu sa tête, c'est sa vie. Et en fait, on a l'impression qu'on suit quelqu'un qui essaie d'échapper à quelque chose, alors qu'en fait, c'est au fond de lui, et il peut pas y échapper, quoi.
Et non.
Ouais, bah c'est exactement ça. En fait, tout le rappel au mal. Enfin, oui, comme le début. Enfin, le début, oui, il est.
Belle analyse d'Ena, en tout cas. Franchement, c'est assez bluffant. Alors, Juno, élève donc en troisième également. Où ça ?
Albert Demain.
Ouais, alors tu as choisi quel personnage méchant ?
J'ai choisi le personnage de Silco dans Arcane.
Alors, raconte tout qui c'est.
Alors, c'est un personnage que j'ai découvert assez récemment pendant les vacances de Noël. Mmh. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que en même temps, on le déteste pour ce qu'il a fait, etc. Il manipule, il est dans l'ombre, etc. Il veut envahir la grande cité de Piltover. Mmh. Mais en même temps, on l'aime bien parce que c'est le père adoptif de notre héroïne.
C'est quoi Arcane, pour ceux qui ne connaissent pas ?
C'est une adaptation du jeu vidéo à succès League of Legends. Mmh. Ça n'a rien... Ça reprend des personnages, mais ça n'a pas vraiment à voir. Mmh.
Et tu te retrouves dans ce personnage de méchant. Rappelle-nous le nom de ce méchant.
Silco.
Silco. Est-ce que tu te retrouves en lui ? Qu'est-ce qui t'attire au fond chez lui ?
Ce qui m'attire, c'est qu'il manipule, mais en même temps, il veut améliorer la situation de son peuple. Mais l'intention est bonne, mais c'est l'exécution qui est mauvaise.
Ça vous parle, Benjamin Patineau, c'est bien vu.
Oui,
hein.
Exactement, mais il est dans le livre, hein, il est construit sur le modèle de Magneto, Silco, et même, moi j'ai trouvé ça vraiment, c'est un très bon choix, parce que Arcane a le mérite justement d'éviter certains pièges, et notamment, alors il est vraiment terrifiant, il est vraiment terrible dans ce qu'il fait, il va très très loin, mais c'est jamais gratuit, effectivement, il fait toujours pour une cause, il fait jamais les choses par pure cruauté, il peut être cruel, mais pour servir sa cause, et le pire, c'est que ça lui donne un peu raison, c'est-à-dire que des fois c'est efficace en fait ce qu'il fait.
Tiens, Julien Bisson, une figure du mal qui vous fascine et qui fait l'objet du deuxième feuillet d'un des libraires, c'est Dorian Gray, issu évidemment du célébrissime roman d'Oscar Wilde, Le portrait de Dorian Gray.
Oui, parce que c'est un personnage qui incarne tout ce qu'on s'est dit sur le bien et le mal. C'est-à-dire qu'on connaît
l'histoire. Rappelez qui est Dorian Gray.
L'histoire de Dorian Gray, c'est un très beau jeune homme, si beau qu'un peintre va faire son portrait. Le portrait est tellement magnifique que Dorian fait le souhait de ne jamais vieillir, de ne jamais
de rester beau
et de rester aussi beau que le portrait. Et en fait, le portrait va finir par porter ses grimaces et à chaque fois va se détériorer au fur et à mesure qu'il va lui commettre des actes maléfiques alors que lui va garder un visage tout à fait innocent. Et on pense souvent que Dorian Gray, à travers cette dualité, c'est une division entre le bien et le mal. Et en réalité, c'est pas une division entre le bien et le mal, c'est une division entre le déni et la culpabilité. C'est-à-dire qu'il y a une personnalité de lui qui nie ce qu'il a pu faire et une autre qui, elle, porte la culpabilité de tous les actes maléfiques.
Il faut préciser que le tableau, le portrait de Dorian Gray, vieillit, se flétrit à mesure que Dorian Gray accomplit des vices, des vilainies, etc. Vieillit, se flétrit, etc. Lui, il reste jeune.
Lui reste jeune, lui reste avec un visage qui est vierge de toute forme de flétrissure, morale ou physique. Et donc, il y a cette tension entre déni et culpabilité qui, je crois, est vraiment intéressante pour essayer de comprendre les débats qu'on a sur le bien et le mal. C'est-à-dire savoir, est-ce qu'on reconnaît ou pas les actes qu'on commet. C'est ça aussi vraiment qui est au cœur de ce roman et qui est une figure de pervers narcissique assez formidable.
C'est une des questions dans vos derniers romans.
Ouais, c'est quelque chose. Le portrait de Dorian Gray, c'est vraiment quelque chose qui marque quand on le lit en général assez jeune. Enfin, moi, j'ai le souvenir d'avoir lu jeune, qui marque autant que Le Petit Chaperon Rouge quand on est petit, quoi. Et qui reste. Et oui, c'est cette différence entre l'intérieur et l'extérieur, quoi. C'est-à-dire que le portrait permet de voir ce qu'il a à l'intérieur. Et à l'extérieur, moi, c'est un peu l'inverse. C'est des gens qui sont présentés moches et sales vu de l'extérieur et qui, à l'intérieur, je pense, sont... Mais oui, ça me fascine. La surface et la profondeur, les apparences et tout ça, c'est tout ce qui m'intéresse. Ouais.
Laurent Beck-Chanclande.
Oui, et puis ce qui vient d'être dit sur le déni, l'incapacité ou la volonté de ne pas reconnaître finalement le mal qu'on commet. Ça me fait penser à une étude d'un sociologue qui s'appelle Orizio, qui a interviewé des grands dictateurs, Bokassa, Duvalier, Hamid Dalda, et qui justement leur posait des questions sur ce qu'ils ont fait, hein, des exécutions, des affamés des populations, etc. Et tous avaient des argumentaires d'auto-justification. C'était pour le bien de tous, le bien du peuple. Finalement, c'est comme si les auteurs d'actions spectaculaires dans le sens du mal avaient finalement une rhétorique bien huilée de la justification.
Il y a une question centrale, Laurent Beck-Shankland. Pourquoi certains, monsieur et madame tout le monde, font le mal et d'autres pas? Est-ce que c'est une question liée à l'autocontrôle? Vous en parlez dans votre livre Psychologie du bien et du mal. L'absence d'autocontrôle favoriserait les conduites immorales selon diverses recherches. Expliquez-nous ça.
Oui, alors, je n'ai pas donné de définition du mal, bien sûr. Mais effectivement, si on se met d'accord sur le fait que, par exemple, blesser quelqu'un physiquement, c'est mal, indépendamment du contexte, hein, bien sûr, parce qu'après, on peut décider que c'est bien dans certaines circonstances, eh bien, dans certains cas, évidemment, ça tient au fait que la personne qui est irritée n'arrive pas à inhiber une impulsion à blesser, par exemple. Donc, effectivement, le mal, ça serait l'absence d'une capacité à réguler son comportement. Cependant, on peut très bien imaginer que dans certaines circonstances, eh bien, faire mal à quelqu'un, c'est justement s'autocontrôler. Je vais empoisonner, comme Thérèse Descayrou, progressivement mon conjoint, jour après jour, donc c'est aussi le mal. Donc je dirais, bien sûr, le plus souvent, le mal le plus fruste, le plus ordinaire, c'est effectivement l'incapacité à se contrôler. Mais on peut imaginer des contre-exemples.
Benjamin Patineau.
Oui, je pense à un exemple récent qui a créé un schisme, et là c'est un méchant entre guillemets bien réel, c'est Luigi Mangione, la personne qui est accusée d'avoir assassiné un PDG d'une compagnie d'assurance privée médicale américaine, et qui a un mouvement d'adhésion de la part d'une partie...
Il est beau gosse, il est beau gosse,
etc. Mais surtout, ça dit quelque chose d'intéressant, parce que c'est que lui, c'est un assassinat, donc effectivement on peut se mettre d'accord sur, c'est quelque chose d'assez clairement immoral là-dessus, mais en même temps, la personne qui a été assassinée, elle a fait un mal beaucoup plus diffus et beaucoup moins spectaculaire, puisqu'en fait c'est quelqu'un qui dirige une société qui dénie des soins à des gens, et donc qui a entre guillemets plus de sang sur les mains que lui, mais un sang qui est beaucoup moins spectaculaire.
Dernière question, et ça tombe sur vous, Philippe Génada. Êtes-vous fasciné par le mal?
Encore? Ouais. C'était la première question.
Non, mais c'est pour savoir si vous avez évolué au cours de l'heure.
Non, pas fasciné, mais intéressé, ouais. Intéressé. Et puis le mal, c'est pas forcément de tuer des petits enfants. Hein. Ça peut être. Moi, je me demande toute la journée, est-ce que ce que je fais est bien ou mal? Ne pas répondre à quelqu'un, à un mail ou je sais pas quoi, ça peut. C'est un tout petit mal, mais c'est quand même un mal.
Je suis rassuré, vous répondez à mes mails.
Toujours.
Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Philippe Génada. Je recommande la lecture de tous vos livres. Hein, et puis de la désinvolture est une bien belle chose, publiée récemment chez Mialet Barreau. Merci Benjamin Patineau. On peut vous retrouver sur votre excellente chaîne YouTube Bolchegeek et dans votre livre Le syndrome magnéto, publié au Diable Vauvert. Merci Laurent Beck-Shankland de Psychologie du bien et du mal. C'est disponible en poche chez Odile Jacob. Et merci Julien Bisson, le 1 des libraires, Le mal et nous, et le supplément consacré au portrait de Dorian Gray. C'est disponible en kiosque évidemment. Et merci Juno et Héna pour cette première radio sur France Inter, et merci Gonel Boulet. Demain, on s'intéresse à toutes ces enseignes plébiscitées par de plus en plus de Français comme Action, Stokomani, BM. Comment expliquer ce succès ?